Alors aujourd'hui, nous allons finir la série sur laquelle nous sommes depuis la rentrée. Depuis septembre, nous avons commencé une série sur la mission de notre Église. Et dans cette mission de notre Église, il y a quatre axes. J'aimerais voir si vous connaissez ces axes. On a parlé de ces choses sur 12 dimanches. Il y a quatre axes de la mission de notre Église. L'objectif, c'était de vulgariser déjà cette mission de l'Église. Et avant, je le disais, la mission de notre Église ne vient pas que de nous, mais c'est la mission de tout chrétien. Et ces quatre axes interviennent dans la vie et dans la progression de la vie chrétienne de toute personne qui accepte de suivre le Seigneur. Alors, le premier axe, c'est quoi? Connaître Dieu. Deuxième? Adorer Dieu. Troisième, servir Dieu. Et quatrième, faire connaître Dieu. Nous existons en tant qu'Église pour connaître Dieu. Notre objectif, notre prière, notre mission, c'est de connaître Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, cette connaissance de Dieu nous pousse à l'adorer. Lorsque nous adorons Dieu, la meilleure manière de l'adorer, c'est aussi au travers de notre service. Et lorsque nous servons ces dieux, nous sommes appelés à le faire connaître à d'autres personnes. Et il y a de cela quelques dimanches, on a commencé ce dernier axe de faire connaître Dieu. Benjamin et puis Hugo nous ont parlé de comment nous sommes appelés à être témoignants par notre vie déjà, par notre manière d'être, témoignants par la manière dont nous prions pour les uns et pour les autres, témoignants partout où Dieu nous place, dans tout ce que nous faisons, parce que c'est comme ça que nous allons faire connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette même thématique pour clôturer avec le thème envoyé dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Et le passage de base, c'est Jean chapitre 20 au verset 21. Jean chapitre 20 au verset 21, la Bible dit, et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il y a un autre frère qui parle anglais, c'est John, chapitre 20, verse 21. Et après, nous lirons Romains, chapitre 10, versets 14 à 15. Romans, chapitre 10, 14 to 15. Envoyé dans le monde. Envoyé dans le monde. Alors pour clôturer cet axe de faire connaître Dieu, j'aimerais juste nous dire que le fait de le faire connaître, ce n'est pas juste un détail. Ce n'est pas juste quelque chose que nous pouvons faire quand nous voulons, que nous pouvons faire d'une manière stratégique, mais nous allons le faire parce que c'est notre devoir, parce que c'est quelque chose que Dieu attend de nous. Lorsque nous connaissons Dieu, nous voudrons l'adorer, je le dis, car l'adoration est notre réponse réelle à la connaissance de Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, alors, Eddie, je ne vais pas te dire, c'est à toi d'avancer. Lorsque nous connaissons Dieu, je le disais, nous avons cette envie de l'adorer. En fait, la connaissance de Dieu nous pousse à l'adorer parce que nous découvrons des choses sur lui. Et déjà, en passant, adorer Dieu, c'est dire qui il est. On ne dira pas qui Dieu est si on ne le connaît pas. Donc lorsqu'on le connaît, on est poussé à déclarer ce qu'on découvre de lui. On est poussé à dire la beauté qu'on trouve en lui. Donc la connaissance de Dieu nous pousse à l'adoration des dieux. Et lorsque tu adores Dieu, tu voudras le servir, car le meilleur de manière de servir Dieu, c'est de l'adorer. Et quand tu sers Dieu, tu voudras parler de lui à côté de toi, car la meilleure manière de servir Dieu, c'est de permettre à d'autres personnes de voir Dieu. Dans ce que Ancilia est en train de faire au Laos, les gens découvrent le cœur de Dieu. Dans ce que nos frères et sœurs sont allés faire dans la rue, sur des différentes portes de Paris, les gens découvrent l'amour de Dieu. En servant Dieu, notre désir, c'est que les gens arrivent à connaître le Dieu que nous servons. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous les servons, nous invitons les gens à le connaître. Donc nous sommes appelés à le faire connaître. Et dans Jean chapitre 20, au verset 21, la Bible dit, c'est Christ qui est ressuscité, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ces versets, c'est un verset très court. Un verset très court, mais un verset qui est profond. Un verset qui nous dit de l'identité du croyant. Que le croyant que nous sommes missionnaires, nous sommes envoyés. Il dit, comme le Père m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Tu n'es pas juste sauvé pour aller au ciel. Le ciel, c'est la finalité du salut, ce n'est pas l'objectif. L'objectif du salut, c'est de nous enrôler dans la mission de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire. Quelqu'un dit, c'est vrai, pasteur? Oui. Nous ne sommes pas sauvés juste pour aller au ciel. Le ciel, c'est la finalité de ceux-là qui auront servi avec Dieu ici. Vous n'êtes pas sûr, hein? Combien d'entre nous on est sauvés? On a reçu Christ, on a mis notre confiance en Christ. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous poser. Si vous êtes là et vous êtes sauvés, pourquoi vous n'êtes pas au ciel? Parce qu'en fait, le salut, ce n'est pas la finalité, c'est le début. Quand on est sauvé, on entre, on l'appelle même la nouvelle naissance. La naissance n'est pas la finalité de la vie, n'est-ce pas? La naissance, c'est le début d'une vie. Alors, lorsqu'on est sauvé en Christ, on commence une nouvelle vie. Et cette vie, maintenant, nous pousse à servir celui pour qui on est sauvé. Amen. Donc, le salut, c'est pour servir le Seigneur. On a été sauvé pour entrer, pour être enrôlé dans la mission de Dieu. Car notre identité de chrétien, c'est une identité missionnelle. Tu n'es pas juste sauvé pour aller au ciel. Avant même de parler de notre mission, il faudra d'abord parler de la nature de Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est un Dieu missionnaire. Un Dieu missionnaire par nature. Car ici, j'aimerais le dire, quand nous allons, nous participons dans la mission de Dieu, ce n'est pas notre initiative, ce n'est pas quelque chose que nous voulons juste faire, mais c'est par invitation de Dieu, dans l'initiative que Dieu lui-même a commencé. Car la mission n'est pas née d'un besoin stratégique de l'Église. On veut juste être stratégique dans notre quartier. On aimerait être connu. On aimerait peut-être que les gens remarquent qu'on est là. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la mission. Ce n'est pas d'abord un plan humain. C'est une initiative de Dieu. Elle est l'expression du cœur même de Dieu. La mission est l'expression du cœur de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, on découvre un Dieu qui crée, un Dieu qui appelle, un Dieu qui parle, un Dieu qui vient à l'homme, un Dieu qui agit pour restaurer. Et cette dynamique atteint son sommet dans la révélation ou dans la relation trinitaire. La Trinité nous révèle un peu la nature missionnaire de Dieu. Dans la Trinité, nous voyons le Père qui envoie le Fils. Dans Jean, chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est le mouvement initial de la mission. Le Père envoie le Fils pour révéler l'amour de Dieu, la vérité et accomplir la rédemption. Le Père envoie le Fils. Et nous voyons, deuxièmement, le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 14, verset 26, la Bible dit, « Et le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. » C'est Christ qui parle. « Que le Père enverra en mon nom. » Et dans Jean, chapitre 15, verset 26, la Bible dit, « Quand sera venu le Consolateur que j'enverrai de la part du Père ?» Jean, chapitre 14, verset 26, c'est Christ qui parle. Il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Un chapitre après, Jean chapitre 15, verset 26, il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai. C'est Christ encore qui parle. On a vu le Père qui envoie le Fils. On voit le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Et troisièmement, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui envoie l'Église. La mission, la nature missionnaire, c'est ça la nature de notre Dieu. Avant que nous ne soyons envoyés, Dieu lui-même s'est envoyé pour accomplir la mission. Et ici, j'aimerais le dire avant d'aller très loin, lorsque nous participons dans la mission, nous sommes en train de participer dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous ne ferons jamais ce que Dieu n'a pas fait. Et dans la missiologie, on dit toujours aux gens, nous n'irons jamais là où Dieu n'est jamais allé. Parce qu'avant, les missionnaires ont pensé qu'on allait quelque part, parce qu'il n'y a pas d'église, on va amener Dieu là-bas. C'est possible qu'il n'y ait pas d'église, mais Dieu y est déjà. C'est possible qu'il n'y ait pas de chrétiens, mais Dieu y est déjà. Parce qu'il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Et Dieu est déjà en train de travailler. Et le rôle du missionnaire, c'est d'aller au fait de dire, il y a un Dieu qui est en train de travailler ici et il voudrait que vous puissiez le connaître. Lorsque nous partons, lorsque nous acceptons l'envoi que Dieu nous fait, nous sommes en train de participer dans ce que Dieu lui-même fait. Car Dieu ne nous enverra pas dans ce qu'il ne fait pas. Dieu ne nous enverra pas dans ce qu'il... là où il n'est pas. Et je le dis toujours, et je vous l'ai dit ici, toutes les fois que Dieu dit « va », il est déjà en train de dire, il est déjà de l'autre côté en train de dire « viens ». Parce que Dieu ne t'enverra jamais là où il n'est pas. Alors quand il dit « je vous envoie », sachez qu'il est déjà de l'autre côté en train de dire « je vous attends ». Et si vous ne partez pas, vous êtes en train de rater la raison d'être. Il y a quelque chose qu'on dit dans la mission, qu'une église qui n'est pas missionnaire, c'est une église qui est en train de passer à côté de sa raison d'être. Nous existons pour participer dans ce que Dieu est en train de faire dans le monde. L'église n'invente pas la mission, elle entre dans celle de Dieu. Elle n'agit pas seule, elle est envoyée par le Dieu trinitaire pour participer dans l'œuvre de Christ par la puissance du Saint-Esprit. La mission, l'Église n'en est pas maître. Bon, je vais rentrer dans beaucoup de détails qui ne sont pas très importants. En fait, la mission ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'est lui qui conduit la mission de Dieu, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Et nous, nous sommes agents dans l'accomplissement de la mission conduite par le Saint-Esprit. Et lorsque vous partez, sachez que vous ne partez pas dans quelque chose qui vous appartient, vous partez dans quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire. Et lorsque vous partez, sachez que vous ne partez pas qu'avec ce que vous avez, vous partez avec la puissance du Saint-Esprit, lui qui est en train d'agir déjà. Et vous participez dans quelque chose de grand. Et dans Jean, chapitre 20, verset 21, Christ il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et pour notre exhortation, méditation de ce matin, nous aurons juste deux points pour clôturer notre série. Et le premier point, c'est envoyer comme Jésus a été envoyé. Nous sommes envoyés dans le monde comme Jésus a été envoyé. Jean, chapitre 20, verset 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et nous venons de le voir que la mission n'est pas une initiative humaine, mais un mouvement de Dieu. Et dans ce cadre, Jésus prononce ses paroles à ses disciples. Et le contexte dans lequel Jésus est en train de parler à ses disciples, Jésus est ressuscité ce matin-là. Et le soir, alors qu'ils sont tous enfermés dans une salle, enfermés, la Bible dit, tout d'un coup Jésus apparaît dans la salle. Tout est fermé. Les disciples, ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Là dehors, ça ne va pas. Les gens sont en train de chercher le corps de Christ. Il y a certains qui sont en train de dire, on a volé son corps pour que ces chrétiens viennent dire que non, il est ressuscité. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a d'autres qui sont passés au tombeau de Christ. Ils ne l'ont pas vu parce que le tombeau était vide. Et là, ils sont rentrés, ils sont dans cette salle enfermés, dans la peur. Tout d'un coup, Jésus apparaît. Imaginez, vous êtes en train de... Vous êtes dans la peur, dans une salle. Vous pleurez quelqu'un qui est décédé il y a cela 3 jours. Et tout d'un coup, il apparaît dans la salle. Déjà, vous-même, vous avez fermé, vous ne pouvez pas fuir. Vous irez où? Et c'est là que Jésus apparaît. Et lorsqu'il arrive, la première parole, que la paix soit avec vous. Pour vous dire, ne soyez pas troublés. Que la paix soit avec vous. Mais juste après ça, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et Christ, il ne les gardait pas en sécurité dans une salle fermée. Mais il dit, je vous envoie. Et écoutez, là dehors, ça ne va pas très bien. Les gens n'aiment pas ceux-là qui étaient avec lui. Et Christ ne dit pas, restez là, parce qu'ici vous êtes en sécurité. Mais il dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. C'est parce que le Père t'a envoyé comme ça qu'on t'a tué, frère. Et toi, tu veux nous envoyer de la même manière qui a fait à ce qu'on t'ait tué. Moi aussi, je vous envoie. C'est un monde hostile à Jésus. Ils viennent juste de les tuer. Là dehors, les gens font des complots pour justifier la disparition du corps de Jésus. Mais Jésus ne dit pas restez là. Il dit je vous envoie. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que le Père l'a envoyé? Cela signifie que notre mission, en tant qu'Église, en tant que disciple, pour faire connaître Dieu, reflète la mission de Christ. Nous n'allons pas faire ce que Christ n'a pas fait. Bien que nous ne soyons pas en mesure de faire tout ce que lui a fait, parce que nous n'allons pas mourir pour quelqu'un. Il l'a déjà fait. Mais notre rôle, c'est de partir de la même manière que le Père a envoyé Christ. Comment le Père l'a-t-il envoyé? Comment le Père l'a-t-il envoyé? Premièrement, le Père l'a envoyé vers les perdus. Il l'a envoyé vers les gens et les personnes perdues. Nous le voyons dans Jean chapitre 1er, non, dans Luc chapitre 19 au verset 10. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Christ a été envoyé vers ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour ceux qui étaient éloignés, ceux qui étaient brisés, ceux qui étaient rejetés. À notre tour, nous sommes envoyés vers ceux qui sont loin, ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne sommes pas envoyés contre eux, nous sommes envoyés vers eux. Nous ne sommes pas envoyés pour montrer que nous sommes meilleurs, mais nous sommes envoyés vers eux pour qu'eux aussi reçoivent ce que nous avons reçu. Christ est allé vers ceux-là qui sont perdus. Écoutez, toutes ces personnes-là dehors qui ne connaissent pas Christ, c'est pour eux que Christ est venu. Il est venu pour eux, pourquoi? Parce qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. C'est eux qui sont perdus, ce n'est pas leur valeur qui est perdue. Je répète, bien que perdus, ils n'ont pas perdu leur valeur. Et ceci me rappelle l'histoire d'un motivateur qui était en train de parler. Il a demandé à quelqu'un de lui donner 20 dollars. Et puis là, soulevé, il dit, qui veut les 20 dollars? C'est tout le monde qui disait, moi j'en veux. Il a pris les 20 dollars, il les a froissés, il les a froissés. Il dit, mais qui le veut encore? Il dit, moi j'en veux toujours. Il a pris les 20 dollars, il l'a jeté par terre, il a marché dessus. Qui le veut? Il dit, moi je le veux toujours. Parce que le 20 dollars, bien qu'il est froissé, bien qu'ils aient pétiné, n'ont pas perdu la valeur. Les 20 dollars ne sont pas devenus 15 parce qu'on les a marchés dessus. Ils ne sont pas devenus 10 parce qu'on les a marchés dessus. C'est vrai qu'ils sont froissés par la vie, mais ils ont gardé la valeur. Et Dieu, il sait que toutes ces personnes de loin, peu importe ce qu'ils vivent, ces personnes que vous voyez détruites par la drogue, détruites par la souffrance, loin de Dieu. Tu vois quelqu'un dans une situation, tu t'es dit, comment quelqu'un pourrait vivre de cette manière? Sachez que ce que vous ressentez, le Père le ressent encore plus. Parce qu'ils ont de la valeur à ses yeux. Christ est venu vers ceux-là qui sont perdus. Et comme le Père l'a envoyé vers ceux qui sont perdus, le Père nous envoie vers ceux-là qui sont perdus. Car ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et la Bible, parlant du royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu, c'est comme ce père, cette femme qui avait 10 pièces d'argent. Elle a perdu une. Elle ne s'est pas dit, bon, j'en avais 10, donc là j'en ai encore 9, c'est pas grave. Elle lui dit, elle a mis toutes les pièces à côté et s'est mise à faire le ménage. Elle a enlevé tous les meubles pour chercher la pièce. Parce qu'au fait, la pièce était perdue. Mais la pièce n'avait pas encore perdu sa valeur. Et là où il était, elle avait encore la même valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et nous partons parce que ces gens ont du prix aux yeux de Dieu. Comment est-ce que le Père a envoyé Jésus? Deuxièmement, nous voyons qu'il les a envoyés dans l'humilité. Il a envoyé dans l'humilité. Nous pouvons le voir dans Marc chapitre 10. Au verset 45, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il l'a envoyé dans l'humilité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il est allé vers les plus petits. De même, nous sommes tous envoyés, pas avec arrogance, mais avec humilité. Nous ne partons pas parce que nous pensons être meilleurs. Nous ne partons pas avec arrogance, nous partons parce que nous reconnaissons que ce que nous sommes devenus, ils peuvent aussi le devenir. Parce que nous ne sommes pas devenus cela par notre propre force. Nous n'avons rien fait pour être ce que nous sommes. Nous l'avons reçu par la grâce. Et si tu reconnais que ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu, alors tu iras dans l'humilité, sachant que cette personne en face de toi a aussi de la valeur aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que Christ est venu comme un serviteur. Lui qui est le créateur de tout ce qui existe, il est descendu au niveau de créature. Et demain, après-demain, nous allons célébrer Noël. Noël, c'est le jour où le Père, le Dieu créateur, a choisi de devenir créature et de naître comme un enfant très vulnérable et de dépendre d'un couple, de prendre la plus... le niveau le plus élevé de la vulnérabilité, être bébé et mettre sa vie entre les mains de deux humains imparfaits, Joseph et Marie, pour qu'ils prennent soin de lui, qu'il grandisse, qu'on lui donne la compote quand ils veulent, qu'on lui donne ce qu'ils veulent, qu'ils le couchent quand eux veulent, pas quand l'enfant veut. Et Christ, le créateur de tout, il a accepté de naître comme ça. Il n'y a pas plus humble que ça. Et une des manières les plus importantes d'être missionnaire, c'est là. C'est de prendre l'image de Christ où il a pris la forme humaine. Lui qui était Dieu, il est devenu comme humain afin que les humains deviennent fils des dieux. Quand nous allons, nous acceptons que ceux qu'ils sont, nous l'avons été. Nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas meilleurs. Il a envoyé dans l'humilité. Et soyons humbles, frères et sœurs. Soyons serviteurs. Ceci me rappelle quand j'étais missionnaire en Inde il y a plusieurs, je voulais dire plusieurs décennies, mais bon, il y a un peu plus de 12 ans. Alors qu'on était en train de discuter avec une demoiselle qui était de cette classe qu'on appelle les intouchables. En train de parler, ne voulait même pas nous écouter parce qu'elle était servante dans la maison de quelqu'un qui nous avait invités. Et à un certain moment, il y a une jeune demoiselle américaine qui me dit à l'oreille, me dit, Patrick, Dieu me met à cœur de laver les pieds de cette femme. Moi, je lui ai dit, si tu sens que c'est Dieu qui t'est conduit, fais-le. Elle a demandé de l'eau, elle a demandé est-ce que je peux laver tes pieds. Cette femme, elle a dit, mais bon, pourquoi? La petite blanche, elle est descendue. Il a commencé à laver les pieds de cette femme et c'était des larmes qui coulaient. Ce geste a brisé la barrière qu'il y avait avant. Et à ce moment-là, elle était ouverte. Elle disait, je peux vous écouter maintenant. C'est plus tard qu'il dira, chez moi ici, on ne me considère pas. On me considère de la plus basse classe. Mais vous, vous venez de loin et vous me montrez cette valeur que ceux au milieu de moi ne me montrent pas. Elle était prête à recevoir le message parce qu'elle a vu l'humilité qu'elle n'avait pas vue à côté. Lorsque nous partons, nous sommes envoyés avec humilité, comme le Fils lui-même a été envoyé dans l'humilité. Le Père qui a envoyé dans l'humilité, il a envoyé le Fils aussi dans le monde. Il ne l'a pas envoyé en dehors du monde. Il a été envoyé dans le monde et pas en dehors du monde. On le voit dans Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Chrétiens, nous vivons comme si nous voulons fuir le monde. Le ciel n'est pas pour ceux qui auront fui le monde. Le ciel est pour ceux qui auront vaincu dans le monde. Beaucoup de chrétiens, nous vivons comme sur un arrêt. On attend le bus qui va nous amener au ciel. On ne veut pas participer dans ce qui s'est fait sur la terre. Écoutez, nous sommes dans le monde pour servir et montrer et parler de Christ dans le monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous restons entre nous. Nous ne voulons pas approcher ceux-là qui ne sont pas comme nous. Comment est-ce qu'ils vont connaître notre Dieu si nous ne sommes pas avec eux? Nous le verrons dans notre deuxième point. Il a envoyé dans le monde, pas en dehors du monde. Jésus n'a pas fait sa mission dans une bulle spirituelle où tout allait bien, dans un monastère. On se détache du monde, on se dit, moi je vais rester dans un monastère. Là, je ne vais pas voir les autres, les pécheurs. Là, ils restent là dehors. Moi, je reste ici. Je m'ai concentré pour le Seigneur. C'est bien la concentration, mais c'est bien d'être en contact avec le monde. Cette parole qui s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Parmi les humains, parmi des personnes normales, si je peux le dire, à notre tour, nous sommes envoyés vers ceux qui sont dans ce monde. Il a marché dans les rues, il a partagé les repas, il a pleuré avec eux, il a enseigné, il a écouté. De même, nous ne sommes pas appelés à fuir le monde, mais à être présents dans le monde. Comme témoin incarné. Du reste, la Bible dit, vous êtes sel de la terre. Le sel ne peut pas donner du goût dans un repas dans lequel il n'est pas. Tu veux donner du goût, accepte de rester dans le monde. Pas pour devenir comme le monde, mais pour que le monde ait la chance, l'opportunité de venir là où tu es. Il a été envoyé dans le monde. Et quatrièmement, le Père a envoyé le Fils avec une mission, avec un message. Nous le voyons dans Luc chapitre 4, au verset 18. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il ne m'a pas envoyé, juste dit, vas-y, débrouille-toi. Il lui a donné un message, il lui a donné une mission. Nous partons parce que nous avons un message. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Il y a un évangéliste anglais qui disait, le chrétien, c'est comme un mendiant qui va vers d'autres mendiants pour leur dire, voici, j'ai trouvé là où il y a du pain. On est tous mendiants, on a tous faim, et moi j'ai trouvé là où il y a du pain. Alors je cours pour dire à d'autres mendiants comme moi, il dit, venez, le pain il est de l'autre côté. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, nous avons trouvé le pain, mais nous voulons garder secret. Maintenant qu'on a trouvé le pain, qu'il ne sache pas. Écoutez, il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. En fait, c'est au fait fait pour tout le monde. Nous ne pouvons pas bien manger ce pain si nous sommes seuls. On ne peut bien nous rejouir de ce pain en tant que mendiant lorsque nous sommes avec les autres. Alors courons et allons dire à d'autres personnes, voici, j'ai trouvé le pain. Et celui-ci s'appelle le pain de vie. Ah, j'aime le jeu de mots. Christ a dit, je suis le pain de la vie. Et nous, on a trouvé le pain qui donne la vie. Ce n'est pas le pain, comme vous dites là, les jeunes, mon pain croustillant. Ce n'est pas ça. Le pain, hein, mon pain. Non. Gloire au Seigneur. Patrick, sois concentré. Il nous a envoyé avec un message, avec une mission. Jésus n'est pas venu main vide. Il est venu avec une bonne nouvelle. Un message de pardon, un message de liberté, un message de transformation. Nous aussi, nous sommes porteurs d'un message qui change des vies. Frères, sœurs, quelque chose est attendu de nous. Si nous avons été envoyés, nous allons rendre des comptes à celui qui nous a envoyés. Si le Père nous a envoyés, alors il attend un rapport. Christ, dans sa prière dite sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il dit, Seigneur, je fais tout ce que tu m'as demandé de faire. Voici, je les ai reçus et je te les confie. Qu'est-ce que toi tu diras? Qu'est-ce que tu vas montrer comme rapport? Seigneur, je suis allé. Et je suis devenu docteur. J'ai mon doctorat affiché bien chez moi. On va dire, je n'étais pas envoyé pour ça. Seigneur, je suis allé. J'ai fait deux beaux garçons, Jelani et Elika. Il dit, c'est bien beau, j'aime bien, mais ce n'était pas que ça. Seigneur, je suis allé. Si tu as envoyé, sache que tu devras rendre des comptes à celui qui t'a envoyé. Il faut avoir quelque chose à dire. Certains diront, Seigneur, je suis allé vers les sans-abri sous la pluie. Je j'ai partagé cet amour que tu m'as donné. J'ai donné des cadeaux, j'ai parlé de toi, j'ai prié avec eux. Certains diront, Seigneur, j'ai accepté de partager, d'aller très loin au Laos. Je me souviens quand j'allais à Hawaï comme missionnaire, il y a plusieurs années, mon père qui me dit, je sais que c'est aux États-Unis, mais est-ce que tu peux montrer ça sur la carte? Je suis allé chercher, c'était juste un point, au milieu de nulle part. Et mon père qui me regarde, il dit, mon fils, c'est là que tu vas aller. Quelqu'un a dit, un missionnaire, c'est cette personne qui quitte sa famille pour permettre à d'autres de vivre éternellement avec la leur. Nous sommes envoyés et nous avons son porteur d'une mission. Est-ce que nous sommes prêts à rendre compte? Deuxième et dernier point, l'envoi révèle l'urgence de la mission. Pourquoi il nous envoie? C'est parce qu'il y a une urgence. Pourquoi il nous envoie? C'est parce qu'il y a une urgence. On le voit dans Romains au chapitre 10, versets 14 à 15. La Bible dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Comment entendront-ils? Comment est-ce qu'ils vont croire si personne n'a parlé? Et comment ils vont parler si personne ne les a envoyés? Ça revient encore à l'envoi. Alors l'objectif de faire connaître Dieu est que tout le monde parvienne à la foi en Dieu. Comme on a parlé le dimanche dernier, la plus grande offre afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça passe par la foi, que tout le monde ait la foi. Et dans ces passages, Paul construit une chaîne logique. Il remonte de la foi jusqu'à l'envoi, en passant par l'écoute, la prédication et la connaissance de Christ. Il y a l'envoi. Il faut que quelqu'un soit envoyé pour que la nouvelle soit annoncée, pour qu'eux aussi soient en mesure d'écouter, pour que la foi se crée et pour que les gens soient sauvés. On veut que les gens soient sauvés, mais on ne veut pas partir, nous qui sommes envoyés. On veut que les gens soient sauvés, mais on n'est pas prêt à annoncer, nous qui sommes porteurs de la bonne nouvelle. On veut que les gens écoutent, mais ne peuvent pas écouter si nous qui sommes envoyés ne parlons pas. Pour qu'ils écoutent et qu'il y ait la foi et qu'ils parviennent au salut, il faut que celui qui a été envoyé accepte de parler. Si nous ne parlons pas, il y a beaucoup de gens qui n'entendront pas et ne recevront pas la bonne nouvelle. Et voilà, Dieu envoie son peuple. Il ne fait pas des anges spéciaux pour venir prêcher. Et il n'envoie pas seulement des professionnels, ceux-là qui ont été formés dans des écoles, des grandes écoles, mais il envoie tous ceux-là qui ont accepté de le suivre. Il dit, partez. Et s'il y a quelques observations importantes, à savoir par rapport à notre envoi. Premièrement, la proclamation est indispensable, il dit. La proclamation est indispensable. Non, ça c'était la proclamation est très indispensable dans ce que nous faisons. Paul n'imagine pas la foi sans des gens qui vont parler. Il faut être en mesure de parler, de dire ce que le Christ nous a dit. La proclamation est indispensable. Deuxièmement, les témoignages sont personnels. Paul ne parle pas ici d'une stratégie marketing où on doit se former pour voir comment on doit séduire les gens pour qu'ils acceptent ce que nous disons. Nous ne sommes pas en train de recruter des gens pour nos églises. Nous ne sommes pas en train de recruter des gens pour devenir membres de notre église avec des stratégies marketing pour les attirer, les séduire, afin qu'ils se retrouvent ici. Mais Paul nous envoie pour parler de ce que nous avons vécu. Des gens qui vont, qui parlent et qui annoncent. Cela ne veut pas dire que chacun doit monter sur l'estrade comme je l'ai fait ici, ou crier dans la rue ou dans les métros. Mais cela veut simplement dire que chacun a une voix à faire entendre dans son contexte. Chacun, là où Dieu t'a placé, dans ton contexte, tu as une voix à faire entendre. Cette voix qui parlera du Seigneur auprès des gens que Dieu a placés à côté de toi. Donc ici, je ne vous envoie pas seulement d'aller dans les rues. Je ne vous envoie pas seulement d'aller dans des métros et de dire aux gens, écoutez, maintenant je vais parler. Bon, pour certains, peut-être que vous allez le faire. Mais ce n'est pas que ça qui nous appelle. Il nous appelle d'utiliser la voix qu'il nous a donnée et de partager les témoignages et l'expérience que nous avons avec lui. Parce que la déclaration, la proclamation, elle est personnelle. C'est ce que nous avons vécu, ce que nous avons rencontré dans le Seigneur que nous partageons avec ceux-là qui sont avec nous. Et troisièmement, il y a de la beauté dans la proclamation. Paul cite Ésaïe, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. J'ai parlé avec quelqu'un qui était dans la rue hier pour rencontrer les sans-abri. Il me dira, pasteur, je me sens comme quelqu'un qui vient de passer un examen. J'ai fait un examen et ça s'est bien passé. Donc je me sens apaisé. Est-ce que nous faisons quand nous partons, quand nous acceptons de partir aux yeux de Dieu, il y a une beauté. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds qui partent pour annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les pieds d'un messager qui parcourt des kilomètres pour annoncer des bonnes nouvelles. Aujourd'hui encore, Dieu regarde avec joie ceux qui prennent au sérieux leur rôle de témoin. Il trouve nos pieds beaux, bien que fatigués. Il dit, c'est beau. Il bénit la fidélité discrète. Il se réjouit chaque fois qu'une graine est semée. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui attend entendre la bonne nouvelle? Est-ce que tu t'es déjà vu comme une réponse de Dieu pour quelqu'un? Écoutez, Dieu a des envoyés pour ce monde. Et l'un d'eux, c'est toi. Dieu a envoyé les gens dans ce monde. Et parmi ces gens, il y a toi. Alors, frères et sœurs, la mission de Dieu ne s'est pas arrêtée à la croix, ni même à la résurrection. Elle continue aujourd'hui avec toi, conduit par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais demandé au monde de venir vers l'église. Et écoutez, c'est un pasteur qui le dit. Jésus n'a jamais dit allez à l'église. Mais il a dit allez dans tout le monde. Il n'a pas dit allez, il n'a pas dit le monde, venez. Mais il a dit à l'église, c'est à vous de partir vers le monde. C'est bien aujourd'hui d'inviter les gens dans l'église. C'est bien d'inviter les gens qu'on connaît. Mais la mission, c'est que nous partions vers le monde. Si le monde viendra, c'est parce qu'il aura déjà entendu le message que nous avons. Et ici, j'aimerais dire, tu as été envoyé par Jésus dans ton monde. Tu as été envoyé pour être sel, là où il n'y a pas de goût. Tu as été envoyé pour être lumière, là où il y a de ténèbres. Tu as été envoyé pour incarner l'évangile dans des gestes simples du quotidien. Tu as été envoyé pour proclamer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne l'ont jamais connu. Nous sommes tous envoyés, alors ne te sous-estime pas et ne sous-estime pas l'impact de ta voix. Un mot peut suffire pour ouvrir un cœur à Dieu. Un mot peut suffire pour ouvrir un cœur à Dieu. Le résultat n'est pas à toi, c'est Dieu qui convainc. Nous sommes envoyés pour faire connaître le Dieu que nous avons rencontré. Alors, souviens-toi de ces paroles de celui qui est ressuscité. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, va dans ta ville, va dans ton quartier, va dans ton bureau, va dans ta famille, tu as été envoyé dans le monde avec un message. Ta mission, veux-tu l'accepter? Va dans le monde. Et ma prière est qu'en tant qu'Église, qu'en cette nouvelle année, nous soyons plus là-dehors. J'aime quand nous sommes ici réunis, mais Dieu attend que lorsque nous sommes là-dehors, que nous puissions aller pour lui, que nous puissions parler pour lui. Des initiatives comme celles qu'on a eues hier, ma prière est que nous puissions multiplier ce genre de sorties. Que l'année prochaine, que nous puissions avoir plus de sorties vers l'extérieur que plus que ce que nous faisons ici. Alors va là où Dieu t'envoie. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous sommes appelés à le faire connaître. Connaître Dieu, adorer Dieu, servir Dieu et le faire connaître. Et en tant que pasteur, en tant que votre frère, dans cette mission, j'aimerais vous dire, allez dans ce monde dans lequel Dieu vous a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Allez, partez, le culte est fini. Et en partant, sachez que vous êtes envoyé. Partez.